Jésus est l'amitié. L'amitié avec Jésus nous entraîne à quitter même ce qui nous tient le plus à cœur, pays, famille, amis, femmes ou enfants. Pierre a magnifiquement traduit cela après l'appel amical lancé par Jésus au jeune homme riche. Pour nous, quittant ce que nous avions en propre, nous t'avons suivi. Évangile de Luc 18-28. Le Seigneur, dans sa réponse, souligne que cette amitié exclusive a pour but d'étendre le règne de Dieu, Évangile de Luc, de faire connaître son nom et sa bonne nouvelle, Évangile de Marc et Matthieu. Elle ne rétrécira nullement les cœurs, bien au contraire, elle les dilatera à la dimension du monde. Son amitié n'émut-il pas l'homme, car c'est dans ce temps déjà que l'ami du Seigneur, grâce à l'annonce même de son nom, noue des multiples et extraordinaires amitiés. Le Christ grandit tout en nous, et notre affection qui s'ordonne à la progression du royaume, et notre intelligence qui s'éclaire à la manière de la sagesse éternelle. Et Jésus ajoute, « Cette amitié non seulement vous enrichira dans ce temps, mais encore plus dans les siècles à venir, car elle vous apporte la vie éternelle. En vérité, je vous dis que nul n'aura quitté maison, femme, parents ou enfants à cause du règne de Dieu qui ne reçoive plusieurs fois autant dans ce temps et dans les siècles à venir la vie éternelle. » Évangile de Luc 18, 29 à 30. Jésus va insister, reprendre les mêmes idées, mais ces paroles se feront encore plus amicales pour bien marquer l'importance de cette mise en garde contre la richesse. Mais Jésus, prenant de nouveau la parole, leur dit, « Mes fils, combien il est malaisé d'entrer dans le royaume des dieux. Il est plus facile à un chameau d'entrer par les clous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. » Évangile de Marc 10, 25. Devant leur désarroi, son cœur lui dicte les mots qui les apaisent. « Mes fils, comme une mère dont la voix se fait plus douce et les mots plus affectueux, plus pressants, pour détourner son enfant du périr qu'il ignore. » Jésus nous rappelle que notre attachement au bien de la terre nous empêche de rentrer dans ce grand mouvement de libération spirituelle qu'est l'annonce de la bonne nouvelle. Notre rôle n'est pas de nous confier dans l'argent. Le royaume est d'un tout autre ordre. Il s'agit d'une mission de la parole à jeter dans le monde comme une semence. Il est impossible à l'homme seul de se détacher de la passion de l'argent et du pouvoir, mais Dieu peut très bien changer son cœur et lui donner le bonheur dans la pauvreté. Ceux-là étaient dans la stupeur, se disant les uns aux autres, « Et alors, qui peut être sauvé ?» Jésus, fixant sur eux son regard, leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, non. Tout en effet est possible à Dieu. » Évangile de Marc 10, 26 à 27. La vocation chrétienne. Après le départ du jeune homme riche, devant la tristesse du Seigneur, Pierre, l'ami fidèle, déclare, « Pour nous, quittant ce que nous avions en propre, nous t'avons suivi. » Évangile de Luc 18, 28. La réplique de Pierre met en lumière cette liberté chrétienne qui ne se réalise que dans l'effort et la rupture. Pierre, répondant à Jésus, résume d'une manière splendide ce qu'est la vocation de l'apôtre et de tous ceux qui veulent entrer dans le royaume, c'est-à-dire de participer à l'annonce de la bonne nouvelle. Il faut tout abandonner pour lui, car cet abandon, ce dépouillement, c'est l'amour d'une personne, de Jésus lui-même. Nous t'avons suivi. Dans toute vocation chrétienne, il y a la réponse de la foi, de la confiance. Il y a un pas à faire vers l'autre, dans l'inconnu et seul l'amour permet de le franchir. Alors dans la joie, au contraire de celui qui s'en va tout triste vers ses richesses, l'apôtre de la bonne nouvelle renonce à bien de joie permise, mais qui l'empêcherait de se donner au centuple. Oui, cette voie de la liberté chrétienne nous invite à quitter ce que nous avons en propre. Ces richesses qu'il nous faut dépasser sont multiples et varient de l'un à l'autre. Riche ou pauvre, chacun de nous possède un univers. Cette liberté dans les détachements n'est pas une mutilation. Elle est, nous fait remarquer Jésus, marche vers les royaumes et l'épanouissement. Et Jésus affirme encore qu'aucun de ses nombreux amis qui au cours des siècles quitteront tout pour les suivre, ne sera déçu de son espoir. Jésus ne trahit jamais notre espérance, à condition que nous ne les placions pas dans les biens de la terre. D'ailleurs, l'univers matériel n'est qu'un vaste gaspillage, où les soleils épuisent leur énergie comme des feux d'artifice, rien que pour les spectacles. Ce n'est donc pas cela qui intéresse le Père, mais ce qu'il veut, c'est de nous donner son amitié et la vie éternelle. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ, recevra le centuple et aura en héritage la vie éternelle. Et beaucoup seront les premiers derniers, les derniers premiers. Évangile de Matthieu 19, 20. Jésus rejoint ici la pensée des grands psychologues de notre temps. Nul ne doit s'approprier ses frères, et même vis-à-vis de nos proches, notre affection ne doit pas les enfermer dans un amour captatif. Ils sont tous les libres enfants du Père. Pour Jésus, beaucoup de ceux qui sont en tête, de ceux qui commandent, de ceux qui ont un rang élevé, seront les derniers dans le royaume de Dieu. Ils n'auront guère recherché les buts essentiels, la vie éternelle. Et le Seigneur appelle tout le monde à ce dépassement. Gratuité de la grâce. Jésus enseigne que dans le domaine de la grâce, c'est Dieu seul qui nous aide. C'est lui seul qui nous appelle à entrer dans le royaume. Pour illustrer sa pensée et éclairer ses paroles, Jésus raconte la parabole des ouvriers envoyés à la vigne. En clair, il s'agit de Dieu et de son appel lancé à tous les hommes depuis les débuts du monde jusqu'à nos jours. Tous les hommes de tous les temps sont donc conviés à venir œuvrer dans le royaume des cieux. Mais cette parabole raconte et retrace avant tout les appels successifs de Dieu dans l'histoire d'Israël. C'est vraiment l'histoire de la montée du peuple de Dieu vers les sauveurs. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit avec le jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. S'étant mis d'accord avec les ouvriers sur un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Évangile de Matthieu 10, 1 à 2. Ils se succédèrent aux différentes heures du jour, c'est-à-dire durant les siècles. Tous seront donc payés, mais selon un barème d'amour qui ne suit nullement la mathématique ou l'échelle des salaires. D'ailleurs, le minimum vital offert est vraiment royal. C'est la vie éternelle accordée par le père de famille. Il n'y a pas lieu de se plaindre, mais les choses se passent autrement. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue-leur les salaires, en commençant par les derniers jusqu'au premier. » Et ceux de la 11e heure, étant réunis, reçurent chacun un denier. Quand les premiers vinrent, ils pensèrent qu'ils recevraient davantage. Et le prenant, ils murmuraient contre le maître de maison, disant, « Les derniers ont travaillé une heure, et tu les as mis sur le même pied que nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Mais lui répondant, dit à l'un d'entre eux, « Ami, je ne te fais pas d'injustice. N'as-tu pas été d'accord avec moi sur un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. » ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou bien as-tu l'œil mauvais parce que je suis bon? » Évangile de Matthieu 28 à 15. En fait, le peuple choisi, les privilégiés de Dieu, ne sont pas d'accord pour voir d'autres peuples venus si tard travailler à la vigne bénéficier des mêmes avantages qu'eux. Jésus s'efforce de leur montrer qu'il n'y a pas à chercher des similitudes entre le domaine de la grâce et celui de la justice sociale. L'amitié de Dieu est gratuite, absolument gratuite. Elle ne vient ni de notre travail, ni de nos mérites. Elle requiert seulement notre oui à la volonté de coopérer à l'œuvre divine en nous. Dans les domaines de l'amitié avec Dieu, ce n'est pas notre travail qui en fait nous donne un droit quelconque. Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Jésus est l'amitié, la résurrection de Lazare. L'amitié de Jésus nous atteint au plus profond de nous-mêmes dans l'histoire de la résurrection de Lazare. Elle nous éblouit. Revivre ces moments au jour où nous sommes au creux de la vague nous rappelle que Dieu n'est pas une idée, mais qu'il nous rejoint en son Fils bien-aimé, venu offrir à chacun de nous cette amitié qu'il a vécue à Béthanie. Lazare était malade. La maladie de nos amis nous éprouve, mais leur détresse révèle la profondeur des liens qui nous unissent et les trouvailles de notre affection. Béthanie, le village de Lazare et de ses sœurs, Marthe et Marie, restait un lieu privilégié pour Jésus après ses longues marches. Il y retrouvait Marthe qui ne savait que faire pour lui être agréable et lui offrir une hospitalité reposante. Jésus la taquinait gentiment, elle se donnait tant de mal, préparait des vrais festins alors qu'un seul plat suffisait. Marie, elle, l'écoutait. Elle avait des gestes un peu fous, cette Marie, les gestes que dicte le cœur, comme le jour où elle oignit d'huile parfumée le pied fatigué du Seigneur et dénouait ses cheveux pour les essuyer. Devant la maladie de leur frère, les deux sœurs tardent pour l'avertir. Elles connaissent l'opposition des Juifs à son regard et craignent pour lui s'il revient en Judée. Tout peut arriver. Leur message est donc d'une discrétion. Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Nous aurions pensé qu'il allait courir chez son ami. Pas du tout. Très consciemment, il reste là 2 jours. Son amour lui dicte une manière d'agir qui nous déconcerte. Pour lui, maladie et mort ne semblent pas le mal absolu. Pour lui, les grands mâles restent le péché qui nous ferme l'entrée dans le royaume. Cette maladie ne va pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Après 2 jours, il propose aux siens de retourner en Judée. Ils ne sont pas très chauds. Hier encore, les Juifs ne voulaient-ils pas le lapider? Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller, dit Jésus. Jésus, en toute sa vie, ressuscite 3 morts seulement. Dans les 3 cas, Jésus parle du mort comme s'il n'était pas mort, mais endormi. Il ne prétend pas ressusciter, mais réveiller. La mort n'est pour lui qu'un sommeil, plus profond que le sommeil de chaque jour. Mais il accepte la vision humaine des choses. Oui, Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous de n'avoir pas été là, mais allons vers lui. Les disciples sont déroutés. Ils sentent les dangers. Retourner en Judée, c'est bien risqué. Thomas, dans un élan d'amitié, proclame, « Allons nous aussi pour mourir avec. » Tous les suivent. Jésus, en arrivant à Béthanie, fait avertir Marthe chez elle. Il veut rencontrer les 2 sœurs, ses 2 amis, en dehors du village, loin des curieux. Il veut parler avec elles, cœur à cœur, dans la paix. Beaucoup de Juifs étaient venus auprès de Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Marthe, dès qu'elle entend que Jésus arrive, court au devant de lui. Son cri est plein de regret de l'ami absent, car avec lui rien n'aurait été pareil. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle ose ajouter, maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus répond pleinement à sa confiance, ton frère ressuscitera. Mais Marthe ne saisit pas la pensée du Seigneur qui veut réellement rendre Lazare à la vie. Elle lui dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Alors Jésus élargit le débat et prononce des paroles qui s'adressent à Marthe, bien sûr, mais aussi à travers sa détresse, à nous tous, que frappe la mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Les crois-tu? Marthe, du coup, a bien saisi que la seule réponse à la mort, c'était cette visite de l'amitié de Dieu, de la tendresse de Dieu, venu vivre et mourir comme nous et avec nous. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Marie, lorsque Marthe lui glisse à l'oreille, le Maître est là, et il t'appelle, court elle aussi le rejoindre à l'entrée du village. Et Jean a noté ce détail. Arrivée devant lui, elle le regarda, puis effondrée à ses pieds, elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, je n'aurais pas vu mourir mon frère. » Marie emploie exactement la même phrase que Marthe. Cette phrase qui, depuis 4 jours, s'échappait sans cesse de leur cœur, de leurs lèvres, quand elles se retrouvaient. Elles avaient tant espéré dans l'arrivée de cet ami, dont le nom glissait à l'oreille, les a fait bondir l'une et l'autre. Mais Lazare est mort, et Marie est là, qui sanglote. Jésus donc, quand il la vit, se lamentait, et quand il vit les Juifs se lamenter, frémit en son esprit, et se troubla, et dit, « Où l'avez-vous mis ?» Elles lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs disaient donc, « Voyez comme il l'aimait. » Jésus, le Fils bien-aimé, communie à notre déchirement devant la mort, devenu l'un de nous, le Fils de l'homme, bouleversé par cet arrachement, il pleure. Jésus aime jusqu'aux larmes, mais aussi avec la toute-puissance d'un Dieu. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Frémissant, Jésus s'approche du tombeau, ôte la pierre, suit l'admirable prière au Père, où il semble s'excuser de lui parler si haut. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais bien que tu m'exaucerais toujours, mais à cause de la foule qui est alentour, je l'ai dit pour qu'il croie que c'est bien toi qui m'as envoyé. » Évangile de Jean 11, 41 à 44. Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» 3 mots pour ressusciter un mort, les morts sortis, liés des bandelettes aux pieds et aux mains. Grâce à l'amitié, à la tendresse de Dieu, Marthe, Marie et Lazare se retrouvaient avec Jésus. Présage merveilleux, qui nous montre que le Sauveur, l'envoyé du Père, est toujours pour nous ce qu'il fut pour eux, la résurrection et la vie. Son amour dépasse le risque d'une création imparfaite où le mal et la maladie existent, mais où la venue du Fils de l'homme les prend en compte pour la vie éternelle. Le miracle et la liberté. Le miracle étonnant de la résurrection de Lazare aboutit à 2 attitudes contradictoires, tant le cœur humain est bizarre. Ainsi, beaucoup de Juifs, de ceux qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Évangile de Jean 11, 45. Cependant, quelques-uns d'entre eux se rendirent auprès des pharisiens et leur dire ce qu'avait fait Jésus. Les prêtres et les pharisiens réunirent donc une assemblée, et ils disaient, « Que faisons-nous alors que cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous les laissons faire ainsi, tous croiront en lui, et les Romains viendront et détruiront et notre lieu sacré et notre nation. » Beaucoup crurent donc, d'autres, paniqués devant la puissance du prophète, vont ameuter les pharisiens pour stopper cette puissance qui les inquiète, et ce sera la condamnation de Jésus. Le miracle est éclatant, mais il n'aboutit pas nécessairement à la foi, bien au contraire. C'est lui qui, en fait, déterminera la condamnation de Jésus. C'est donc ce jour-là que fut arrêtée leur résolution de le faire mourir. Évangile de Jean 11, 53. C'est toute l'ambiguïté du miracle qui n'efforce jamais notre liberté. Jésus est l'amitié, le sacrifice de Jésus. Aussitôt après, le tableau si glorieux et si touchant de la résurrection de Lazare, les calculs humains des ennemis de Jésus dans ce qu'ils ont à la fois de plus sordide et de plus cruel apparaissent. Mais ce contraste même éclaire encore ce miracle de l'amitié. En revenant à Béthanie, en accomplissant devant tant de témoins cette œuvre glorieuse, Jésus hâtait sa mort. Il y a donc dans cette vie rendue à Lazare, non seulement le bienfait du Fils de Dieu, Tout-Puissant, mais aussi le dévouement héroïque de l'ami, à qui le miracle devait coûter la vie. C'est dans des textes comme celui-ci qu'apparaît le sens profond de la mort de Jésus. À nous de méditer ce texte afin de mieux vivre la grande réalité du sacrifice de la messe. Car pour nous, comme pour Lazare, c'est bien ce corps livré, ce sang versé, que nous y retrouvons afin que l'homme vive éternellement. C'est bien aussi pour nous les miracles de l'amitié, l'Eucharistie. Car Caïphe avait bien dit après la résurrection de Lazare et devant l'engouement du peuple pour Jésus, « Vous n'y entendez rien et vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. » Évangile de Jean 11, 49 à 50. C'est l'Esprit Saint lui-même qui nous révèle, à partir de ses paroles, les sens de la mort et des souffrances du Christ. Or, il n'a pas dit cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année, il prophétisa que Jésus devait mourir pour sa nation, et non pas seulement pour sa nation, mais aussi afin d'amener à l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. C'est donc de ce jour-là que fut arrêtée leur résolution de le faire mourir. Évangile de Jean 11, 51 à 53. Jésus est donc mort pour nous tous, car tous les hommes sont destinés à devenir fils de Dieu. Et c'est à travers l'acceptation de sa mort, d'une manière très consciente et très filiale, qu'il sauve tous les hommes. Il les amène à faire comme lui, accepter leur condition humaine des créatures mortelles, appelées à la vie éternelle, mais à travers la mort. Désormais, tout homme qui, dans sa mort, s'abandonne à la volonté du Père et croit au Fils de Dieu, est reçu comme un fils, à l'image du bien-aimé, ce Fils de l'homme, qui le premier franchit la mort dans la confiance absolue. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jusque dans la mort de son Fils, Dieu respecte la liberté de l'homme. Il est le chemin de la résurrection et rassemble dans l'unité les enfants de Dieu dispersés dans le temps et dans l'espace.